Terroir Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 8 novembre 2021. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, l'escalade dans le conflit en Éthiopie. Le chef de l'armée de libération Oromo promet une victoire très prochaine pour la rébellion. Un rapport de l'ONU sonne l'alerte sur la famine au Nigeria. 17 millions de personnes seront en insécurité alimentaire aiguë en 2022. Ici aux États-Unis, les voyageurs affluent après la levée de certaines restrictions aux frontières. La présidentielle au Nicaragua, la Russie et les Occidentaux en désaccord sur la reconnaissance de la victoire proclamée de Daniel Ortega. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. La capitale éthiopienne sous la menace de groupes armés, un chef de l'armée de libération Oromo qui combat aux côtés des rebelles tigréens a affirmé que ses combattants se trouvaient près d'Addis Abeba. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'OLA, groupe armé de l'ethnie Oromo, et son nouvel allié, le Front de Libération du Peuple du Tigré, TPLF, poursuivent leur offensive contre les forces gouvernementales un an après le début du conflit au Tigré dans le Nord. Ce dont je suis sûr, c'est que ça va se terminer très prochainement, a déclaré le chef militaire de l'OLA, Jal Maro. Le TPLF et l'OLA, considérés comme terroristes par Addis Abeba, ont revendiqué la semaine dernière la prise de plusieurs villes stratégiques de la région de l'Amara, sans exclure de marcher sur la capitale. Les communications sont coupées dans les zones de combat et l'accès des journalistes y est restreint. Le gouvernement a démenti toute menace sur Addis Abeba, mais les autorités de la capitale ont demandé aux habitants de s'organiser pour défendre la ville. Plusieurs ambassades étrangères ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays. Sur le plan diplomatique, des puissances étrangères comme les États-Unis, mais aussi des pays de la région comme le Kenya ou l'Ouganda, ainsi que l'Union africaine, ont appelé à un cessez-le-feu.
Des militaires portugais soupçonnés de trafic de diamants en Centrafrique. Ce qui est en cause en ce moment, c'est la possibilité que certains militaires ayant participé à la force nationale détachée en République centrafricaine aient été utilisés comme courrier dans le trafic de diamants, d'or et de stupéfiants qui auraient été transportés à bord d'avions militaires, a indiqué l'état-major des forces armées portugaises. Un contingent de 180 militaires portugais est actuellement détaché auprès de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, déployée depuis 2014. Au moins 5000 personnes se sont réfugiées aujourd'hui en Ouganda après l'attaque de position de l'armée congolaise près de la frontière entre les deux pays. Dans la nuit de dimanche à lundi, des hommes armés non identifiés ont attaqué plusieurs sites militaires dans la zone de Bunagana, un important poste douanier situé à 80 km de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Nigeria, près de 17 millions de personnes seront en insécurité alimentaire aiguë en 2022, soit une hausse vertigineuse du nombre de personnes souffrant de la faim dans le pays le plus peuplé d'Afrique, selon un rapport financé par les Nations Unies. Le point avec Rosine Monezero.
Entre octobre et décembre, plus de 12,1 millions de Nigérians vivant dans 21 États seront confrontés à une situation d'insécurité alimentaire critique ou d'urgence, indique le rapport publié vendredi. Selon les prévisions, ce total atteindra 16,8 millions de personnes entre juin et août 2022, soit une hausse de plus de 4 millions de personnes. Ce rapport intitulé « Le cadre harmonisé » est publié deux fois par an sous l'égide du ministère nigérian de l'Agriculture, avec l'appui technique et financier des Nations Unies et d'ONG. L'État de Borno, situé dans le nord-est où les djihadistes mènent une insurrection depuis 12 ans, est la zone qui compte le plus grand nombre de personnes en proie à l'insécurité alimentaire cette année. Très dépendante du pétrole, l'économie du Nigeria a été durement frappée par la pandémie de coronavirus. L'année dernière, le pays a connu sa deuxième récession en 5 ans, mais a renoué avec la croissance ces derniers mois. L'inflation, notamment les prix des denrées alimentaires, reste toutefois élevée, plongeant les Nigérians dans la pauvreté.
Toujours au Nigeria, la commission électorale a déclaré lundi que des risques portant sur la sécurité ont retardé le vote lors de l'élection samedi du gouverneur de l'État d'Anambra dans le sud-est du pays, un scrutin considéré comme un test majeur avant la présidentielle de 2023. Dans la majeure partie de l'Anambra, le scrutin s'est déroulé sans incident, malgré la crainte que le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra perturbe le scrutin. Ce groupe est accusé d'avoir orchestré une série d'attaques contre des membres des forces de l'ordre et des bureaux de la commission électorale. Mais la commission électorale nationale indépendante a expliqué que le scrutin devait reprendre demain mardi dans le district d'Ayala en raison de problèmes de sécurité. Au Niger, au moins 18 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une mine d'or artisanale dans la région de Maradi, dans le sud du pays, près du Nigeria. Il y a eu également 7 blessés hospitalisés, a expliqué Adamu Guiraou, le maire de Dan Issa, localité où a eu lieu le drame, précisant que des ressortissants nigériens figurent parmi les blessés. L'accident est survenu dimanche après-midi, lorsque des puits artisanaux se sont effondrés au niveau du site minier du village de Garim Liman, non loin de la frontière avec le Nigeria. Le premier ministre ivoirien Patrick Hachi, cité début octobre dans les Pandora Papers, une enquête journalistique internationale dénonçant des pratiques d'évasion fiscale, a estimé lundi que les accusations contre lui étaient infondées. « Je souhaite que ce dossier soit clos. Il ne faut pas chercher là où il n'y a rien », a-t-il lancé lors d'une conférence de presse sur l'action du gouvernement, où il s'exprimait personnellement pour la première fois sur ce dossier. Début octobre, l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation, à laquelle ont collaboré environ 600 journalistes, avait conclu que le premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, contrôlait une société aux Bahamas jusqu'à au moins 2006. Le président français Emmanuel Macron reçoit demain mardi son homologue béninois Patrice Talon pour finaliser la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, conservé jusqu'ici au musée parisien du Quai Branly, qui rejoindront le Bénin dès mercredi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis rouvrent les frontières terrestres et aériennes aux voyageurs vaccinés contre le COVID-19 en provenance du Mexique, du Canada et de la plupart des pays d'Europe. La mesure donnerait un coup de pouce aux industries du transport aérien et du tourisme décimé par la pandémie. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Les voyageurs arrivant par voie aérienne à partir des pays concernés devront présenter un certificat de vaccination contre le COVID-19 ainsi que la preuve d'un test COVID négatif datant de moins de 3 jours. Ceux arrivant par voie terrestre du Canada et du Mexique auront juste besoin d'un certificat de vaccination s'ils viennent pour le tourisme et les visites familiales. Les chauffeurs routiers et autres personnes voyageant pour des motifs professionnels impérieux seront quant à eux dispensés de cette exigence. Toutefois, à partir de janvier, tous les passagers par voie terrestre seront soumis à l'obligation vaccinale. Les compagnies aériennes se préparent à ce regain d'activité, les restrictions pendant la pandémie ayant fait plonger le nombre des voyageurs internationaux. Les données de la société de voyage et d'analyse Cirium montrent une augmentation de vols entre le Royaume-Uni et les États-Unis de 21% ce mois-ci par rapport au mois dernier, tandis que la compagnie aérienne américaine Delta affirme avoir constaté une augmentation de 450% des réservations internationales.
La Russie dénonce l'appel des États-Unis et d'autres pays à ne pas reconnaître l'élection présidentielle d'hier au Nicaragua. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La Maison-Blanche a refusé de reconnaître l'élection présidentielle et appelé tous les autres pays à faire de même. « Nous trouvons cela inacceptable et nous condamnons fermement cette politique », a déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Il a dénoncé ce qu'il qualifie de pression étrangère, recours à des sanctions unilatérales et illégitimes et tentative d'ingérence directe dans les affaires de Caracas. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a félicité son homologue nicaraguayen. En revanche, le président Joe Biden parle d'une élection qui n'a été ni libre, ni juste et certainement pas démocratique. Pour l'Espagne, cette réélection est une farce imposée au peuple du Nicaragua. Quant à l'Union européenne, elle considère que cette présidentielle achève le basculement du Nicaragua dans un régime autocratique selon le chef de sa diplomatie, Joseph Borrell. Le tribunal électoral a proclamé la victoire avec 75% des votes du ticket formé par le président sortant Daniel Ortega et son épouse Rosario Murillo, vice-présidente depuis 2017. Il estime le taux de participation à 65,34%, tandis qu'un observatoire proche de l'opposition, Urnas Abiertas, entendait urne ouverte, donne un taux d'abstention de 81,5%.
Les États-Unis ont appelé lundi l'Égypte à faire des progrès concrets et durables en matière de droits humains à l'ouverture de leur dialogue stratégique avec cet allié régulièrement accusé par des organisations indépendantes de violer les libertés individuelles. Faire des progrès concrets et durables en matière de droits humains est nécessaire pour renforcer nos relations bilatérales, a prévenu le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken en recevant son homologue Sameh Chokri à Washington. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a annoncé lors d'une conférence de presse aujourd'hui les grands axes de son programme de protection sociale. Avec une croissance de 8% par an entre 2012 et 2019, s'est-il réjoui, le taux de pauvreté est passé de 52% à 36%. Selon le chef du gouvernement ivoirien, la richesse par habitant a doublé, le budget de l'État a été multiplié par 3 entre 2011 et 2020 et le volume global des investissements a été multiplié par 7. Le Gabon a établi une liste de mesures fiscales pour réduire les exonérations à l'horizon 2023, après qu'un rapport du FMI estimait que celle-ci générait un manque à gagner de 436 milliards de francs CFA, soit plus de 7% du PIB non pétrolier. Le Gabon va notamment mettre fin aux exonérations sur la TVA dans le secteur des BTP et procéder à l'augmentation progressive de la TVA sur le ciment. Le marché des crypto-monnaies a dépassé ce lundi les 3 000 milliards de dollars pour la première fois de son histoire. Les marchés américains ont, depuis fin octobre, accès à l'ETF, un produit indiciel adossé au Bitcoin qui permet à des investisseurs de parier sur l'essor de la première crypto-monnaie sans sortir de Wall Street.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. NBA pour commencer, porté par Kevin Durant, 31 points, 7 passes décisives et 7 rebonds. Les Brooklyn Nets ont remporté un cinquième succès du rang devant les Raptors du Camerounais Pascal Siakam, battu 116-103. Washington s'est imposé 101-94 aux dépens de Milwaukee. Cleveland a glané une quatrième victoire d'affilée à New York, 126-109. À Orlando, le Magic a joué un vilain tour au Jazz qui a perdu 107-100. Golden State a dominé Houston 120-107. Les Clippers ont eu raison de Charlotte 120-106. Toujours ici, aux États-Unis, 33 000 coureurs sont revenus hier dans les rues de New York pour le 50e marathon new-yorkais. La course a été annulée l'année dernière en raison de la pandémie. Tina Trent a suivi cette course. Récit Bagassi-Coura.
S'il y avait un mot pour décrire la journée d'hier à New York, ce serait retour. Mos Ramata, fan de marathon.
C'est génial, c'est tellement bon d'être parmi les gens.
Ramata était l'une des plus d'un million de fans estimés qui ont applaudi plus de 30 000 coureurs du monde entier alors qu'ils descendaient dans les rues, couvrant 42 km à travers les quartiers de Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx et Manhattan. Mos Ramata, fan de marathon.
Nous étions vraiment tristes que cela ne se fasse pas l'année dernière, donc nous sommes tellement heureux que ça soit de retour et nous sommes ici pour le Kenya.
Elle ne sera pas déçue car les Kenyans ont pris la première place chez les hommes et les femmes. Peris Jepchirchir a franchi la ligne d'arrivée en 2h. 22 minutes et 39 secondes et est devenue la première athlète à remporter l'or olympique et le marathon de New York la même année.
Je me sens bien. Je suis si heureuse.
Du côté des hommes, Albert Courir, 27 ans, a terminé avec un temps de 2h, 8 minutes 22 secondes. Un retour gratifiant pour Courir qui a terminé deuxième au marathon de New York en 2019.
Je n'imaginais pas que je gagnerais aujourd'hui. C'est comme ça que ça s'est déroulé mon entraînement et voilà les résultats.
Mais peut-être que le plus grand retour de la journée appartient à la ville elle-même et aux fans de marathon qui ont assisté au retour d'une tradition new-yorkaise connue dans le monde entier.
C'est super d'être de retour. Nous avons hâte de revenir ici chaque année. C'est très amusant.
Un comeback qui marque aussi le cinquantenaire de ce marathon de New York.
Football, Xavi Hernandez est le nouvel entraîneur du FC Barcelone, déclarant vouloir sortir le club d'une situation difficile. Lors de sa présentation officielle au Camp Nou, « Je reviens à la maison, je sais que c'est compliqué économiquement et footballistiquement », a expliqué l'ancien milieu de terrain Blaugrana qui a quitté le banc du club Qatari d'Al-Sadd, se disant ému devant 10 000 supporters des Blaugrana réunis dans les gradins du Camp Nou.
Le technicien catalan a signé son contrat sur la pelouse où il a évolué de 1998 à 2015. Le Barça pointe à la 9e place de la Liga après 12 journées. Et pour le premier match de son nouvel entraîneur, le Barça affrontera l'Espagnol Barcelone pour un derby le 20 novembre avant un match décisif en Ligue des Champions contre Benfica le 23.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Guillon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a imposé dimanche des sanctions contre les dirigeants au pouvoir au Mali en raison de la lenteur de la transition vers la démocratie depuis le coup d'État de l'été dernier. Les sanctions incluent des interdictions de voyage et un gel des avoirs pour tous les membres du gouvernement de transition ainsi que certains membres de leur famille, précise le communiqué de la CDAO. Des sanctions ciblées différemment perçues par les Maliens. Reportage de nos correspondants Mohamed Danyoko à Bamako.
Gel des avoirs, interdiction de voyager, ce sont les sanctions prises à l'encontre d'individus et de groupes identifiés, notamment les autorités de la transition et les autres institutions, à l'issue du 3e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra, au Ghana. Pour Bakary Traoré, expert en communication, ces sanctions ont tenu compte de la situation actuelle du Mali.
Les sanctions qu'on rajoutait, notamment les sanctions économiques, les sanctions financières, n'ont pas été adoptées. Donc, ces sanctions donc, de la CEDEAO, à mon avis, sont des sanctions qui répondent à un certain pragmatisme et à un certain réalisme. Eh bien, la CEDEAO a dû prendre en compte, hein, à mon avis, eh bien, les réalités du terrain, à savoir donc, l'insécurité qui n'est pas totalement maîtrisée sur le terrain, sur l'ensemble du territoire, mais aussi les difficultés sous-jacentes par rapport à l'organisation des élections des futures échéances.
Si l'absence d'un calendrier électoral, comme souhaité par la CEDEAO avant la fin du mois d'octobre, explique en grande partie ces sanctions, Modibo Dolo, journaliste, estime que ces sanctions ciblées contre les autorités de la transition et leurs proches peuvent amener des changements.
Je pense que c'est des sanctions, moins sévères, parce que vraiment beaucoup craignaient une sanction, en tout cas économique, contre le pays, comme par exemple la fermeture des frontières, ce qui n'a pas été vraiment le cas. Et on peut déduire à ce niveau que le pire a été évité. Les sanctions ciblées contre les acteurs de la transition et leurs proches, bon, je peux dire que ça a moins d'effet. Et ça peut se justifier aussi, parce qu'avec ces extinctions, ça va vraiment les pousser, en tout cas, à faire quelque chose.
Dans son communiqué final, la CEDEAO appelle à un mandat plus robuste de l'aménagement. Un paradoxe, selon Nene Diallo, vice-coordinatrice du mouvement Nouveau Type de Malien, car si la CEDEAO sanctionne les dirigeants de la transition, c'est justement selon elle, à cause de cette même insécurité, que l'aménagement doit aider à améliorer.
Ce qui est paradoxal, dans son communiqué, la CEDEAO annonce qu'elle va demander à l'ONU de modifier le mandat de l'aménagement et prochainement au Mali. Donc logiquement, on fait les liens, c'est pour résoudre ou venir à bout de la solution de l'insécurité. C'est paradoxal quand même, tout ce problème du Mali qui s'aggrave.
Après cette sanction, il est prévu d'examiner la situation au Mali et de la Guinée le 12 décembre prochain lors du sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, deux faits majeurs ont marqué la fin de la semaine dernière. Les personnes handicapées ont organisé une journée sans tricycle à N'Djamena pour exiger du gouvernement de transition la levée de la décision leur interdisant de traverser les frontières Tchad-Cameroun. Elles ont été dispersées par la police. Entre-temps, des militaires en mission officielle ont profané une paroisse située dans le 9e arrondissement de N'Djamena et le curé a été injurié et brutalisé. La correspondance de André Kotbajinga à N'Djamena.
Ali, au sommet de Justin, alias Gilet Noir, leader du mouvement de protestation contre l'interdiction au tricycle de traverser les frontières Tchad-Cameroun, il galvanise ses compagnons de lutte, une cinquantaine, qui ont tenté, malgré leur situation, d'exprimer leur mécontentement sur la principale avenue de N'Djamena. Bien qu'ils rampaient presque sur la voie bitumée, la police les rattrape à quelques mètres du trajet et les arrose de gaz lacrymogène.
On a commencé devant l'ambassade et là les policiers nous ont quand arrivé ici. Ah, bonjour les dégâts, ils nous ont tiré. Moi je suis tombé, certains d'entre nous là, ils ont eu des blessures. Maintenant j'ai mal à la poitrine.
Les témoins et victimes de cette bavure policière expriment au micro de VOA Afrique leur indignation.
On en a assez mal de la promesse du gouvernement par rapport à la levée de la mesure de la rue de Kouteli. Donc il faut marcher pour que le gouvernement puisse nous écouter. Parce que c'est la seule ici pour que la personne qui a vécu dans ces pays. Quand on donne de l'argent gratuitement, ça va finir. Nous voulons nous prendre en charge. Il y a parmi nous des gens qui ont des diplômes qui ne sont pas intégrés. Là j'ai déjà avancé. Déjà fatigué. Les enfants sont là. Il y a l'occasion qui est là. Il y a le manger qui est là. Il y a la santé qui est là. Il faut tout faire.
J'ai ma licence en gestion de ressources humaines. J'ai ma maîtrise en histoire, mais l'État ne veut pas m'intégrer. Et pour me prendre en charge, il faut que j'aille à Kousseri. C'est ça notre principale activité de revenu. On sortit jusqu'à ce que nous tombions et puis laisser le Tchad sans personne handicapée.
On va faire comment? On peut même on veut la mettre dans le véhicule. On y jette en prison. On n'a pas nos droits. Enterrez-nous vivants.
Ali, au sommet de Justin, leader de ce groupe de personnes handicapées, informe que d'autres manifestants. Les stations seront programmées si la mesure n'est pas levée.
Nous, on a des charges, on loue nos enfants à l'école, mais nous voulons se prendre en charge. Tant qu'il n'y a pas gain de couche, le 10, là, on ne va pas ramper, mais peut-être on va sauter par le dos. On va se préparer le 10. Même heure, même lieu. On n'a pas demandé le départ du président de CMP, mais nous demandons la levée de la route de Kousseri.
Dans la même semaine, un prêtre a été violenté dans le locaux de sa paroisse en N'Djamena et son téléphone portable arraché par les militaires à bord de trois véhicules qui ont fait irruption dans ce lieu de culte. Pour le chef de l'église catholique du Tchad, Monseigneur Edmond Ditangar, archevêque métropolitain de N'Djamena, cet acte confirme le mépris des personnes et des lieux de culte par ceux qui sont censés les protéger.
Nous tenons à dénoncer ces attitudes et comportements de mépris que certains compatriotes adoptent vis-à-vis de la religion des autres. C'est une forme d'intolérance qui ne doit pas avoir place dans une société plurielle comme la nôtre. Je demande aux autorités publiques de prendre conscience du caractère hautement sensible de tout ce qui touche le domaine religieux et le respect de ceux qui en sont les responsables, de garantir le caractère laïque de notre pays et le respect des lieux de culte.
Aucun membre du gouvernement de transition ne s'est prononcé pour le moment sur la revendication des personnes handicapées et au traitement inhumé et dégradant infligé à un prêtre dans sa paroisse par des militaires. André Kodouma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photo et vidéo, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les restrictions de voyage aux États-Unis mises en place pendant la pandémie prennent fin après plus d'un an et demi. À partir d'aujourd'hui, les voyageurs du monde entier peuvent reprendre leur vol vers les États-Unis s'ils sont vaccinés et présentent une preuve de test négatif. Nathalie Barge.
Les États-Unis ont levé les restrictions sur les voyages en provenance d'une longue liste de pays, dont le Mexique, le Canada et plusieurs pays européens. Bhavna Patel vit à Londres. À cause des restrictions, elle n'a jamais rencontré son petit-fils qui vit à New York.
Je veux obtenir un badge. Je vais voir mon petit-fils. Vous savez, je veux un grand chapeau ou quelque chose comme ça sur lequel sera indiqué. Je vais voir mon petit-fils.
Dan Godwin, un citoyen allemand, et son épouse américaine Stella se rendent à New York depuis Francfort.
Il faut en finir avec les restrictions car il y a un besoin de libre circulation et elles sont contre-productives. Elles limitent les gens sur le plan social. Ma femme est américaine, je suis allemand et cela a affecté la famille. Maintenant, nous pouvons interagir et nous savons que les affaires vont reprendre.
Ce coronavirus a été une très grande épreuve pour moi de voir ma famille ici en Allemagne. Donc je suis vraiment heureuse que ces restrictions aient été levées.
La nouvelle de la reprise des voyages aux États-Unis a eu un impact immédiat sur les réservations des compagnies aériennes. Klaus Frozen, PDG de Lufthansa Airlines.
Nous pouvions le voir dans les systèmes de réservation en quelques minutes ou heures et pour les jours, semaines et mois à venir. Nous avons de nombreuses réservations presque au même niveau qu'en 2019.
Les restrictions liées à la pandémie ont eu un impact sur l'économie américaine. Todd Noop, professeur d'économie au Collège Cornell.
Comme les gens ont moins voyagé, cela a joué un grand rôle dans l'influence des prix de l'énergie et des matières premières. Et cela ensuite se répercute dans presque tous les aspects de l'économie.
Les navires attendent plusieurs jours avant de décharger leur cargaison dans les ports encombrés de la côte ouest, où la plupart des produits en provenance de Chine entrent aux États-Unis. Le professeur Todd Noop.
Les restrictions de déplacement des personnes ont également empêché la circulation des biens et des services. Donc, dans une économie de plus en plus mondialisée, cela a conduit à de nombreux goulots d'étranglement.
Ces mesures interviennent alors que les États-Unis ont vu une amélioration de la pandémie ces dernières semaines. Toutefois, des millions de personnes vaccinées avec le Sputnik V de la Russie, le CanSino de la Chine ou d'autres vaccins non approuvés par l'OMS ne pourront pas venir aux États-Unis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Tout au long de cette semaine, nous vous proposons une série de reportages qui illustrent le parcours d'élus américains d'origine africaine. Un coup de projecteur sur cette tranche de la diaspora qui s'est frayé une place dans le paysage politique américain. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la libérienne Laketa Ricks. Elle est députée de l'État du Colorado pour la 40e circonscription. Les élus africains, c'est une production de Betty Ayoub et Carole Gainsbourg. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Bonjour, je m'appelle Laketa Ricks, je suis députée de l'État du Colorado pour la 40e circonscription. J'ai appris tellement de choses lors de ma première année de session en tant que législateur de l'État. J'ai appris à faire adopter des projets de loi. J'ai appris dans l'ensemble, vous savez, à me conduire en commission. Cela a été un endroit fascinant pour réaliser si vous connaissez réellement la politique, comment les lois sont adoptées, siéger aux différentes commissions, en particulier la commission des entreprises et du travail, ainsi que celle de la santé publique et du comportement où j'ai siégé. Entendre parler des problèmes du Colorado et trouver des solutions pour les résoudre grâce à ces projets de loi était tellement gratifiant pour nous. Une personne sur dix ici au Colorado est un immigrant. Six petites entreprises ici sont créées par des entrepreneurs immigrants comme moi. Ma propre famille est arrivée au Colorado en 1980 après un coup d'état militaire sanglant au Liberia, en Afrique de l'Ouest, d'où je viens. Ma mère a été menacée avec une arme pendant plus de deux heures pendant que ma sœur et moi regardions. Nous ne savions pas si elle allait vivre ou mourir. Et la raison pour laquelle ils l'ont interrogée, c'est parce qu'elle était fiancée à un fonctionnaire du gouvernement. Quand ils l'ont trouvée, ils l'ont traînée dans notre allée avec ma mère. Et juste par la grâce de Dieu, elle n'a pas été prise. Au bout de quelques jours, ils ont rassemblé les 13 ministres du gouvernement, les ont attachés et les ont fait abattre par un peloton d'exécution. Quelques mois après cet événement, nous avons pu venir aux États-Unis et nous sommes finalement arrivés ici à Aurora, où je vis aujourd'hui. Et donc, me tenir là dans cette maison de l'État et représenter mon district, ce moment était vraiment important pour moi. Vous savez, c'était juste beaucoup à digérer. Mais je pense que c'est de cela qu'on parle quand on évoque le rêve américain. Je pense que les gens viennent du monde entier pour fuir la famine, la guerre, les troubles politiques, comme nous l'avons fait, et ils viennent chercher une vie meilleure. Et j'ai eu la chance d'être bénie ici au Colorado. Non seulement en représentant mon district, mais aussi en créant ma propre entreprise pour élever ma fille et pouvoir contribuer aux autres au sein de ma communauté est une vraie joie.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Rocher Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.